J'ai intitulé cette conférence « Genèse, histoire et normativité technique » parce que je voudrais revenir sur des questions qui me travaillent depuis longtemps et que je n'avais pas réussi à résoudre. Ceux qui ont lu mes travaux sur Simondon savent que je prends beaucoup de plaisir à triturer le texte et à essayer de voir des problèmes, des paradoxes, et à essayer de résoudre ces paradoxes, parce que ma conviction, c'est que Simondon est un penseur intuitif qui n'a pas pris le temps d'expliquer véritablement la cohérence de sa pensée, et tout mon travail a consisté à essayer de dégager une cohérence possible, tout en dénonçant parfois des tensions, mais je le faisais jamais de manière négative. J'appelais ça une exégèse polémique, mais c'était pas pour discuter véritablement Simondon, c'était juste pour montrer en quoi sa pensée était au-delà des apparentes contradictions qu'on pouvait y voir. Et ce que j'appelle des paradoxes, ce sont des apparences de contradictions qui trouvent une solution. Pour moi, Simondon est un penseur fondamentalement paradoxal. Et c'est ça d'ailleurs qui m'intéresse, c'est que le paradoxe, et pour moi c'est le sel de l'esprit, il n'y a pas de philosophie sans paradoxe, et Simondon a multiplié les paradoxes, il est donc, pour moi, fondamentalement un grand philosophe. Que faire de Simondon aujourd'hui? Tu l'as rappelé, notre but n'a jamais été de sanctifier Simondon, mais au contraire de le réactualiser. Que faire de Simondon aujourd'hui? C'est bien la question posée par une décade qui s'intitule Simondon, Gilbert Simondon et l'invention du futur. Alors mon travail personnel sur Simondon, en réalité, a toujours été dirigé vers un après Simondon. Puisqu'à l'époque de ma thèse de doctorat, en 2000-2003, mon travail était guidé par le projet d'une future relativisation englobante de l'ontologie de Simondon. Alors je ne reviendrai pas sur ce que j'appelle la relativisation englobante, mais enfin ça consiste essentiellement, grosso modo, à partir d'un nouveau sol pour retrouver secondairement l'ontologie de Simondon, qui ne serait plus une philosophie première, qui serait la traduction seconde d'un plan tout à fait nouveau. Et on aurait ainsi un système global, que j'appelle la relativité philosophique, mais qui n'est pas un système du savoir. C'est un système global, mais certainement pas un système du savoir. Donc j'ai toujours été guidé par cette intention, mais cette intention, dans mes travaux sur Simondon, je l'ai mise entre parenthèses. Je ne l'ai pas exposée, ou seulement à quelques moments. Alors, j'ai donc construit une exégèse que je disais quand même polémique, parce que je ne voulais pas être soumis à la pensée de Simondon. Et mon projet d'un nouveau système philosophique, j'en parlerai la semaine prochaine. La relativité philosophique, j'en parlerai la semaine prochaine lorsque nous ferons la table ronde de Simondon et le devenir de la philosophie. Mais ce matin, je vais vous faire ce que j'entends comme une sorte de dernier effort d'exégèse, un dernier travail d'exégèse. Je viens de terminer un dernier livre de simple initiation à Simondon, que m'avaient commandé les belles lettres. Et ben voilà, je vous fais maintenant un dernier travail d'analyse de sa pensée avant de passer à autre chose. Alors, je vais aujourd'hui, plus précisément, essayer donc de prolonger un texte que j'avais publié en 2012, qui s'appelait, un texte publié dans les cahiers Simondon numéro 4, et qui s'appelait « Sur l'architectonique du mode d'existence des objets techniques ». Et je voudrais prolonger un passage de ce texte, car dans ce texte, je faisais trop rapidement la connexion entre deux problèmes, et je voudrais revenir en détail sur cette connexion. Ce sont deux problèmes que je n'avais pas résolus jusqu'à présent. J'avais fait la connexion en 2012, mais je voudrais vraiment justifier cette connexion pour résoudre en même temps les deux problèmes. Comme souvent, en effet, c'est en faisant le lien entre des aspects séparés du propos de Simondon que l'on peut comprendre vraiment la portée de sa pensée. Et une telle opération exégétique, puisqu'elle porte plus que jamais sur l'implicite de son texte, ne saurait se passer d'une véritable analyse intertextuelle. Les deux aspects de sa pensée dont je voudrais donc approfondir la connexion, jusqu'ici simplement entrevues par mes analyses, sont les deux thèses problématiques suivantes. Première thèse problématique, la Genèse n'est pas l'histoire. Deuxième thèse problématique, il existe une normativité technique intrinsèque. Expression de Simondon lui-même. Dans ce qui suit, je voudrais examiner d'abord la façon dont Simondon introduit ces deux thèses, tout en soulignant à chaque fois ce qui les rend problématiques, puis montrer en quoi ces deux thèses sont complémentaires l'une de l'autre et doivent être comprises ensemble si l'on veut dégager la cohérence possible de son propos et peut-être aussi sa fécondité pour aujourd'hui. J'en viens donc à la première thèse, la thèse de la dualité Genèse-Histoire. Cette première thèse est énoncée d'abord de manière très implicite, dans l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Elle apparaît à l'occasion de l'exposé de la théorie des phases de l'être, lorsque Simondon, dans la conclusion de l'ouvrage, caractérise le discontinu dont il a besoin comme une discontinuité de phase. D'abord distingué par lui d'un discontinu spatial ou énergétique, cette discontinuité de phase est ensuite présentée comme fournissant une alternative à la conception dialectique du devenir. Dans cette présentation, transparaît l'idée qu'à la différence de l'histoire privilégiée par les pensées dialectiques, la Genèse ne se déroule pas dans le temps, mais elle produit ce dernier comme dimension du devenir. Simondon avait déjà eu l'occasion, dès l'introduction de l'ouvrage, de souligner que, je cite, « le temps lui-même, dans cette perspective ontogénétique, est considéré comme expression de la dimensionnalité de l'être s'individuant. » Mais c'est dans la conclusion de l'ouvrage, et à l'occasion d'une critique du schème dialectique, comme schème qui n'est pas axé sur la Genèse, que le devenir est clairement distingué d'une succession se déroulant dans le temps. Simondon écrit « L'existence des phases de l'être ne doit pas être conçue comme un simple pouvoir de succession. La succession n'existe que sur un fond de parallélisme des phases, comme dimension des phases. Permanence et succession sont des concepts qui ne peuvent rendre compte du devenir, parce qu'ils supposent l'être réduit à une phase unique, c'est-à-dire exempt de phase. » Alors si j'ai qualifié d'implicite la manière dont ces lignes mobilisent la thèse de la dualité Genèse-Histoire, c'est parce qu'ici, Simondon semble tenir un propos sur la nature du devenir en général. Sans donc réserver à la Genèse comme devenir particulier la propriété de ne pouvoir être pensée selon le schème temporel de la succession. Pourtant, c'est bien en ramenant l'idée du devenir à celle de la Genèse, et sous le nom d'individuation, que Simondon conteste ce schème temporel de la succession. Ainsi qu'en témoigne cette affirmation décisive, s'individuer et devenir est un unique mode d'exister. En d'autres termes, le devenir ne transcende ici le schème temporel de la succession que parce qu'il est conçu comme une genèse, et non pas comme une histoire. Mais c'est seulement dans du mode d'existence des objets techniques que la thèse selon laquelle la genèse n'est pas l'histoire deviendra explicite. Et c'est là, d'ailleurs, que sera définie la notion de phase dans sa différence avec un moment temporel. Et à l'occasion d'une application de la théorie des phases de l'être au problème de la culture. Cette définition de la notion de phase est en effet donnée en préambule au premier chapitre de la troisième partie de Du mode d'existence des objets techniques, et ce chapitre s'intitule significativement « Genèse de la technicité ». Simondon écrit « Par phase, nous entendons non pas moment temporel remplacé par un autre, mais aspect résultant d'un dédoublement d'être et s'opposant à un autre aspect. Ce sens du mot phase s'inspire de celui que prend en physique la notion de rapport de phase. On ne conçoit une phase que par rapport à une autre ou à plusieurs autres phases. » En s'appliquant à la culture, la théorie des phases de l'être, telle qu'elle avait été proposée dans la thèse principale de Simondon, va permettre de penser la technique non plus seulement comme processus de concrétisation, considéré pour ainsi dire de l'intérieur, mais comme phase de cet ensemble plus large et polyphasé qu'est la culture. Telle est la nouveauté apportée par la troisième partie de Du mode d'existence des objets techniques. Et c'est en vertu de ce regard désormais englobant que la technique sera rebaptisée technicité. En effet, dès lors que la technique est considérée comme une phase de la culture, elle devient un mode de rapport au monde, et c'est ce mode que désigne le mot technicité. Mais il y a une autre raison à ce changement d'appellation. Il y a une autre raison au passage du mot technique au mot technicité. Et cette raison apparaît dans le titre même que donne Simondon à cette troisième partie de l'ouvrage. Non plus donc le titre du premier chapitre de la troisième partie, mais le titre de la partie elle-même. Cette partie, troisième partie de l'ouvrage, est en effet intitulée « Essence de la technicité ». En pensant désormais la technique comme une phase de la culture, Simondon veut aussi penser la technique dans son essence, qui sera à ses yeux la fonction de l'élémentaire, c'est-à-dire le fait de se rapporter au monde en le découpant en unités, par opposition et par complémentarité avec la fonction de totalité de la religion comme autre mode de rapport au monde. Cette fonction de l'élémentaire, en tant qu'essence de la technique, est ce que désigne également le mot « technicité ». On peut en effet distinguer entre, d'une part, l'essence de tel ou tel objet technique, qui réside dans un fonctionnement particulier de l'objet, et non pas dans ses usages, selon la fameuse dualité introduite par le début de l'ouvrage, et d'autre part, l'essence de la technique, qui réside dans la technicité comme mode spécifique de rapport au monde. Le titre « Essence de la technicité » est alors à interpréter en réalité comme signifiant la technicité comme essence de la technique. Il s'agira pour Simondon de montrer ce qu'est la technique comme mode spécifique de rapport au monde, c'est-à-dire aussi dans son essence. Et cela se fera par la description de la genèse de la technicité en tant que phase de la culture. Ce point est décisif car il va permettre de comprendre que le discours de la troisième partie de Du mode d'existence des objets techniques sur la culture comme devenir, terme qui apparaît dès le titre du premier sous-chapitre, eh bien ce discours n'est pas, malgré les apparences, une histoire. Il est ce que l'on doit appeler une eidétique génétique, c'est-à-dire une description des lois d'essence selon lesquelles doit être pensé le rapport pluridimensionnel de l'homme au monde. J'avais annoncé que la thèse de la différence entre genèse et histoire, tout comme celle de la normativité technique intrinsèque à laquelle j'en viendrai bientôt, pour les connecter, j'avais annoncé que cette thèse était une thèse problématique. S'il en va ainsi, c'est parce que le propos de Simondon parle très souvent de la genèse des phases de la culture comme il parlerait d'une histoire dans laquelle l'unité magique primitive serait devenue par déphasage la bipolarité technique-religion. Mais si l'on garde à l'esprit que les phases ne sont pas des moments temporels, le mode d'expression de Simondon doit être considéré comme trompeur. Et ceci permet alors d'expliquer pourquoi la phase magique primitive décrite par Simondon ne contient pas d'artefacts et précède l'apparition de la technique, alors même que dans l'histoire de l'humanité, les artefacts sont constitutifs du devenir homme, ainsi que nous l'a enseigné le roi Gouran et que Simondon le savait, puisque le roi Gouran était l'une de ses grandes lectures. Bien sûr, une autre solution pour résoudre le problème, une autre solution à laquelle je ne donnerai pas ma préférence, serait de considérer que de toute façon, le magique chez Simondon est beaucoup plus rudimentaire que le rapport magique au monde décrit par les ethnologues de son époque. Puisque dans Du mode d'existence des objets techniques, le mode magique d'existence est défini comme, je cite, « immédiatement au-dessus d'une relation qui serait simplement celle du vivant à son milieu ». Selon cette nouvelle solution, on pourrait avoir un processus historique qui part d'une situation pouvant s'appliquer aux primates eux-mêmes en tant qu'êtres déjà psychosociaux, puisque le rapport magique au monde se caractérise ici simplement par des points clés comme le sommet de la montagne ou le cœur de la forêt. Ceci permettrait d'expliquer pourquoi Simondon écrit que le mode magique d'existence est celui qui est pré-technique et pré-religieux. Proposition dont on perçoit immédiatement en quoi son vocabulaire relève de la succession historique. Je l'ai annoncé, cette autre solution n'a pas ma préférence, et la raison n'en est pas seulement qu'elle fait fi de la distinction entre les phases de la culture et des moments temporels. Une autre raison intervient en effet, le rapport magique au monde, s'il ne contient certes chez Simondon que des points clés comme le sommet de la montagne ou le cœur de la forêt, investit cependant ces points clés d'une charge symbolique très forte, qui seule légitime pleinement leur nom de points clés. Puisque Simondon précise que ces points clés sont des lieux et des moments privilégiés, comme si tout le pouvoir d'agir de l'homme et toute la capacité du monde d'influencer l'homme se concentraient en ces lieux et ces moments. Ce sont des réalités qui concentrent les pouvoirs naturels comme elles focalisent l'effort humain, dit-il. On le voit, les points clés sont non seulement des lieux, mais aussi des moments, et ils définissent un monde que Simondon caractérise comme une réticulation, et qui est traversé par des forces. Simondon, du reste, parle dans ces mêmes pages de la pensée magique, son propos répétant sans cesse qu'il s'agit d'un rapport humain au monde, et il ressent même le besoin d'évoquer la superstition, pour caractériser par différence, mais pas forcément par appauvrissement, ce qu'il appelle le magique. Il écrit « On cherche en général, dans la superstition, un exemple des schèmes de la pensée magique, lorsqu'on essaie de la retrouver à partir des conditions de vie actuelles. En fait, les superstitions sont des vestiges dégradés de la pensée magique et ne peuvent qu'égarer dans une recherche de sa véritable essence. » Il convient au contraire de faire appel à des formes hautes, nobles et saintes de la pensée, nécessitant un effort en pleine lumière pour comprendre le sens de la pensée magique. Tel est par exemple le soubassement affectif, représentatif et volontaire qui supporte une ascension ou une exploration. Le désir de conquête et le sens de la compétition existent peut-être dans la motivation qui permet de passer de l'existence courante à ces actes d'exception, mais il s'agit surtout, lorsqu'on invoque le désir de conquête, de rendre légitime pour une communauté un acte individuel. En fait, dit-il, dans l'être individuel ou dans le groupe restreint de ceux qui réalisent l'acte d'exception, c'est une pensée beaucoup plus primitive et beaucoup plus riche qui est en œuvre. Ces derniers mots disent bien tout le paradoxe du magique simondonien. Et ils me permettront de conclure cette première partie de mon propos. À la fois primitif et riche, le magique de Simondon est une réalité humaine, et il ne saurait être considéré comme un stade historique s'inaugurant dès le préhumain. Si donc le magique est cependant dit pré-technique et pré-religieux, c'est parce qu'une nouvelle phénoménologie de l'esprit doit partir de lui pour retracer la genèse des essences que sont la technicité et la sacralité. La troisième partie de « Du mode d'existence des objets techniques » n'est donc pas une histoire de la culture. Elle est une eidétique génétique. Et la thèse de la différence entre genèse et histoire ne s'est révélée problématique qu'en vertu de la difficulté rencontrée par Simondon pour s'exprimer sans utiliser le vocable de l'antériorité déjà temporelle. Alors j'en viens maintenant à la seconde des thèses problématiques énoncées, c'est-à-dire la thèse de la normativité technique intrinsèque, qu'ensuite je connecterai à la première thèse pour résoudre le problème qui la caractérise. Cette seconde thèse de la normativité technique intrinsèque apparaît d'abord dans la très longue note complémentaire sur les conséquences de la notion d'individuation, qui est composée de deux chapitres et dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire en quoi elle fournissait une parfaite transition entre l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information et du mode d'existence des objets techniques. Dès les premières lignes du second de ces deux chapitres, une première version de cette thèse est donnée. La voici. Simondon écrit « L'activité technique peut être considérée comme une introductrice à la véritable raison sociale et comme une initiatrice au sens de la liberté de l'individu. Le technicien dans une communauté apporte un élément neuf et irremplaçable, celui du dialogue direct avec l'objet en tant qu'il est caché ou inaccessible à l'homme de la communauté. On ne doit pas oublier, précise-t-il, que la première apparition d'une pensée individuelle libre et d'une réflexion désintéressée est le fait de techniciens, c'est-à-dire d'hommes qui ont su se dégager de la communauté par un dialogue direct avec le monde. » Et il termine en disant « Tannery a montré dans son ouvrage intitulé « Pour une histoire de la science hellène » le rôle prépondérant de la pensée technique dans le miracle grec. Le miracle, dit-il, est l'avènement à l'intérieur de la communauté de l'individu pur. » La thématique de l'individu pur est certainement celle qui donne le plus de virulence à cette première version de la thèse d'une normativité technique intrinsèque. La pensée génétique de l'individuation réserve aux techniciens de génie, dont la figure par excellence est Thalès, aux yeux de Simondon, elle réserve aux techniciens de génie le statut étonnant d'individu pur. Parce que le technicien de génie est l'homme libre et désintéressé, par lequel une simple communauté figée peut se transformer en une véritable société dynamique. Pour reprendre une distinction notionnelle centrale chez Simondon, communauté-société. Affranchi des valeurs utilitaires de la communauté gouvernée par la division du travail, le technicien apporte la possibilité d'un renouvellement des valeurs parce que ce qu'il produit est porteur d'une information universalisable. Ainsi que le redira en 1965-66 le cours « Imagination et invention ». Dans la note complémentaire qui, elle, pour sa part, date de 1958, Simondon précise « Le rapport de l'homme au monde peut en effet s'effectuer soit à travers la communauté par le travail, soit de l'individu à l'objet, dans un dialogue direct qu'est l'effort technique. L'être technique médiatise l'effort humain et lui confère une autonomie que la communauté ne confère pas au travail. » L'être technique est participable, dit-il. Comme sa nature ne réside pas seulement dans son actualité, mais aussi dans l'information qu'il fixe et qui le constitue, il peut être reproduit sans perdre cette information. Il est donc d'une fécondité inépuisable en tant qu'être d'information. Il est ouvert à tout geste humain pour l'utiliser ou le recréer et s'insère dans un élan de communication universelle. Les sophistes, précise-t-il, ont compris et exprimé cette valeur de l'effort technique qui libère l'homme de la communauté et fait de lui un véritable individu. L'homme n'est pas seulement zone politikon, il est aussi zone technikon. Et la communication de la pensée technique est empreinte du caractère d'universalité jusque dans ses formes les plus frustes ou les plus élémentaires. On trouve bien sûr ici, quoique de manière implicite, la fameuse opposition travail-technique qui singularise Simondon au sein de la tradition philosophique occidentale. On y trouve aussi une mise en valeur explicite du véritable individu par opposition à la communauté. Mais, dans le même temps, on y trouve un rattachement de cet individu inventif à l'idée d'une transindividualité humaine et technique qui transcende, justement, la communauté de travail. Simondon tient à préciser à cet égard, il y a dans l'invention quelque chose qui est au-delà de la communauté, et institue une relation transindividuelle, allant de l'individu à l'individu, sans passer par l'intégration communautaire garantie par une mythologie collective. La relation immédiate entre des individus définit une existence sociale au sens propre du terme, tandis que la relation communautaire ne fait pas communiquer les individus directement les uns avec les autres, mais constitue une totalité par l'intermédiaire de laquelle ils communiquent indirectement et sans conscience précise de leur individualité. Une théorie de la communauté laisse échapper le dynamisme de la société des individus. La sociologie, termine-t-il, pour être complète, doit intégrer une étude des techniques. Je dirais qu'en ce sens, l'individu pur qui invente un objet technique ne s'opposait plus au social que dans la mesure où ce social restait en partie communautaire. et n'accédait pas encore à l'universalité de la communication, dont l'objet technique inventé, en tant qu'information, est l'incarnation. Il s'agit donc d'une nouvelle version de la société savante. Et Simondon attribue à la technique ce que d'autres attribuaient aux mathématiques, justement absentes de son œuvre. L'approfondissement de la réflexion de Simondon va alors le conduire à une seconde version de la thèse de la normativité technique intrinsèque. Et c'est ici que cette dernière sera nommée comme telle. Il la nommera cette fois-ci normativité technique intrinsèque. Mais, nous allons le voir, grâce à l'articulation de deux types de normativité technique, dont le second viendra fonder le premier. Voici ce qu'il écrit. Les normes techniques sont entièrement accessibles à l'individu sans qu'il doive avoir recours à une normativité sociale. L'objet technique est valide ou non valide selon ses caractères internes qui traduisent le schématisme inhérent à l'effort par lequel il s'est constitué. Une normativité intrinsèque des actes du sujet qui exige leur cohérence interne se définit à partir de l'opération technique inventive. Ces normes ne suffisent jamais à produire l'invention, mais leur immanence au sujet conditionne la validité de ton effort. Le technicien ne peut agir que librement, car la normativité technique est intrinsèque par rapport au geste qui la constitue. Et il termine en disant « L'adoption ou le refus d'un objet technique par une société ne signifie rien pour ou contre la validité de cet objet. La normativité technique est intrinsèque et absolue. On peut même remarquer que c'est par la technique que la pénétration d'une normativité nouvelle dans une communauté fermée est rendue possible. » Je répète, c'est par la technique que la pénétration d'une normativité nouvelle dans une communauté fermée est rendue possible. Ces derniers mots disent bien ce qui avait été annoncé plus haut dans mon propos, lorsqu'il s'agissait pour moi de commenter la première version de la thèse de la normativité technique intrinsèque offerte par les premières lignes de ce second chapitre de la note complémentaire. L'invention technique est source d'un renouvellement des valeurs en direction d'une communication universelle. Et elle permet en cela à la société de se défaire toujours plus de sa nature communautaire. Cela de façon asymptotique. S'il est vrai que, comme le précise Simondon, tout groupe social est un mixte de communautés et de sociétés. Mais à cette première version de la normativité technique intrinsèque, vient s'articuler dans le passage ici cité une seconde version, non plus à la fin du passage, mais au début. Une seconde version qui sera développée par du mode d'existence des objets techniques et qui ne concerne plus la normativité technique pour le progrès de la société, mais la normativité technique pour le progrès technique. Si en effet l'information dont est porteur l'objet technique inventé est universalisable, si cette information est universalisable, c'est parce que l'invention technique possède ses contraintes proprement techniques. Ces dernières étant liées à ce fonctionnement de l'objet que du mode d'existence des objets techniques opposera aux usages de l'objet. En d'autres termes, la liberté du technicien, affirmée à nouveau dans ce passage, cette liberté n'est rien d'autre que l'équivalent de la très paradoxale liberté du mathématicien créateur, dont les inventions n'échappent en effet aux influences sociales que parce qu'elles procèdent de contraintes propres au domaine donné. Contrainte de cohérence interne, comme dit Simondon, mais en parlant quant à lui de l'invention technique. Et les deux formes de normativité technique intrinsèque entretiennent une relation de fondation, puisque les contraintes de fonctionnement qui définissent les normes proprement techniques sont aussi ce qui rend l'information technique universelle, c'est-à-dire ce qui fait de la technique le vecteur du progrès social vers la communication universelle. Et la transindividualité humaine et technique nouvelle. Dès lors, cependant, la thèse de la normativité technique intrinsèque va se révéler à son tour problématique, ainsi que je l'avais annoncé. Mais contrairement à la thèse de la différence entre genèse et histoire, elle ne se révélera pas problématique seulement en vertu de difficultés que rencontrerait Simondon dans son mode d'expression. Et c'est pourquoi la résolution de la difficulté passera cette fois par la mise en relation de la thèse de la normativité technique intrinsèque avec celle de la différence entre Genèse et histoire. Celle-ci venant éclairer celle-là pour la légitimer. Qu'est-ce qui, en effet, fait problème dans la thèse de la normativité technique intrinsèque ? Concernant d'abord le progrès technique, cette thèse signifie qu'un tel progrès est autonome vis-à-vis des motivations sociales et économiques de telle ou telle invention. On sait que cette autonomie est contestée par les tenants du constructivisme social, qui reprochent volontiers à Simondon d'être déterministe, au sens où chez lui, le développement technique suivrait son cours indépendamment des contingences socio-économiques. J'avais eu l'occasion de répondre à cette critique dans mon article des cahiers Simondon numéro 4, et je sais qu'Andrew Finberg reviendra centralement sur cette question jeudi matin. Je me contenterai donc ici de dire qu'à propos de cette question, il importe d'avoir à l'esprit la différence entre le devenir technique et le progrès technique. Ce que veut penser Simondon, c'est le progrès des fonctionnements techniques, pour lequel seul il affirme l'autonomie de la technique en vertu des contraintes proprement techniques qui s'imposent à une véritable invention. Ce qui signifie qu'à ses yeux, de nombreux devenirs techniques peuvent être commandés par des motivations socio-économiques, mais à chaque fois se pose la question de savoir si les fonctionnements y progressent. Par-delà la nouveauté des usages. Ici, Simondon est clairement un penseur de l'invention, au sens fort de ce terme, et non pas un penseur de l'innovation. J'en viens donc au progrès social, et non pas technique. Car c'est par rapport à ce progrès social que la thèse de la normativité technique intrinsèque m'intéresse aujourd'hui. Le problème qui survient ici est le suivant. D'une part, la technique est une phase très précoce dans la série des déphasages qui constitue la culture. Et la note complémentaire ajoutait pour sa part que la normativité technique pour le progrès social vers la communication universelle est inhérente à l'activité technique comme telle, du fait de l'information participable qui définit l'objet technique inventé. Mais d'autre part, dans du mode d'existence des objets techniques, la normativité technique pour le progrès social est rattachée à l'époque contemporaine. Et cela dès le dernier paragraphe de l'introduction à l'ouvrage, qui est à tous égards fondamental, comme l'étaient déjà les dernières lignes d'introduction à la thèse principale. Et voici ce paragraphe. Cette modification du regard philosophique sur l'objet technique annonce la possibilité d'une introduction de l'être technique dans la culture. Cette intégration, qui n'a pu s'opérer ni au niveau des éléments, ni au niveau des individus, de manière définitive, le pourra avec plus de chances de stabilité au niveau des ensembles. La réalité technique devenue régulatrice pourra s'intégrer à la culture, régulatrice par essence. Cette intégration ne pouvait se faire que par addition au temps où la technicité résidait dans les éléments, par effraction et révolution au temps où la technicité résidait dans les nouveaux individus techniques, les machines de la révolution industrielle. Aujourd'hui, la technicité tend à résider dans les ensembles. Elle peut alors devenir un fondement de la culture, à laquelle elle apportera un pouvoir d'unité et de stabilité, en la rendant adéquate à la réalité qu'elle exprime et qu'elle règle. L'idée d'intégrer la technique dans la culture, à travers une culture technique, est en relation directe avec l'idée de normativité technique pour le progrès social. Or, le passage cité indique, premièrement, qu'il existe ce que j'ai eu l'occasion d'appeler des âges tendanciels de la technique, en fonction des trois niveaux de l'élément technique, de l'individu technique et de l'ensemble technique. Deuxièmement, ce passage indique que seul l'âge contemporain des ensembles techniques révèle pleinement la normativité technique pour le progrès social, légitimant ainsi, pour la première fois, l'espoir d'une réelle intégration de la technique dans la culture, comme intégration qui, en retour, favorisera la naissance d'une réelle transindividualité, et donc le devenir société de la communauté. Ce que j'avais appelé pour ma part le passage de la société du travail à la société de l'invention. Deux remarques encore ici. D'abord, parler d'âge seulement tendanciel, comme je l'avais fait, cela signifie que les ensembles techniques ont en réalité toujours accompagné les éléments techniques et les individus techniques qu'ils composent. Mais qu'à l'âge contemporain, la technicité désormais, réside dans les ensembles. comme disait Simondon dans le passage cité. Deuxième remarque, cette thèse n'est pas incompatible avec l'idée exprimée par Simondon que les éléments sont porteurs de technicité. Car les éléments ne font par là que transmettre la technicité acquise par un ensemble désormais. Le problème que nous avons à résoudre est donc le suivant. D'un côté, l'activité technique issue d'un déphasage précoce est comme telle une introductrice à la véritable raison sociale, disait Simondon dans la note complémentaire. Et de l'autre, la normativité technique ne se révèle véritablement qu'à l'âge contemporain des ensembles. Pour résoudre ce problème, je propose d'appliquer la thèse de la différence entre genèse et histoire à la thèse de la normativité technique intrinsèque. Et de le faire en profitant du fait que l'idée de véritable raison sociale possède en réalité deux aspects différents et complémentaires. D'une part, l'idée de liberté rattachée à l'individu pur. D'autre part, l'idée de communication universelle. On se souvient que c'est le deuxième aspect qui était celui par lequel la normativité technique pour le progrès technique était fondatrice à l'égard de la normativité technique pour le progrès social. Or, c'est bien sûr sur ce deuxième aspect, communication universelle, qui relève non de la genèse, mais de l'histoire. Car chez Simondon, les ensembles ne définissent un nouvel âge tendanciel de la technique que lorsqu'ils deviennent des ensembles informationnels, permettant d'entrevoir cette communication universelle. D'où ce passage décisif. On peut affirmer, dit-il, en ce sens, que la naissance d'une philosophie technique au niveau des ensembles n'est possible que par l'étude approfondie des régulations, c'est-à-dire de l'information. Les véritables ensembles techniques ne sont pas ceux qui utilisent des individus techniques, mais ceux qui sont un tissu d'individus techniques en relation d'interconnexion. Toute philosophie des techniques qui part de la réalité des ensembles utilisant les individus techniques sans les mettre en relation d'information reste une philosophie de la puissance humaine à travers les techniques, non pas une philosophie des techniques. Certes, Simondon disait plus haut que la communication de la pensée technique est empreinte du caractère d'universalité jusque dans ses formes les plus frustes ou les plus élémentaires. Certes, il disait cela. Mais on doit distinguer entre la communication de la pensée technique, qui fonde le progrès technique comme progrès cumulatif, et la communication universelle permise par la pensée technique, qui permet aux ensembles informationnels de révéler aujourd'hui pleinement la normativité technique pour le progrès social. Ainsi peut-on dire que la thèse de la différence entre genèse et histoire s'applique à la thèse de la normativité technique intrinsèque pour l'éclairer et la légitimer. Tandis que sur le plan génétique, comme plan eidétique, la technique est une phase très précoce, issue du premier déphasage, celui de l'unité magique primitive. Sur un plan historique, la technique est ce dont la normativité technique intrinsèque pour le progrès social ne se révèle qu'aujourd'hui, à l'âge des ensembles informationnels. On peut même ajouter qu'aux yeux de Simondon, l'ensemble informationnel par excellence est celui constitué par les instruments du laboratoire scientifique. Et c'est pourquoi le philosophe belge Gilbert Ottois, dans son livre de 2004, Philosophie des sciences, philosophie des techniques, a raison, je crois, de rattacher Simondon à Bachelard pour faire de ces deux philosophes français les précurseurs d'une philosophie de la technoscience. Ainsi, Simondon écrit-il, dès la note complémentaire, il écrit ceci, « La véritable activité technique est aujourd'hui dans le domaine de la recherche scientifique, qui, parce qu'elle est recherche, est orientée vers des objets ou des propriétés d'objets encore inconnus. » Mais ce qu'il importe ici de souligner pour mon propos, c'est que l'application de la thèse de la différence entre genèse et histoire à la thèse de la normativité technique intrinsèque permet de résoudre un dernier paradoxe. On sait en effet que pour Simondon, la dignité culturelle de la technique ne réside pas dans ses usages par l'homme, mais elle réside dans ce qui, en apparence, est le moins humain au sein de la technique, c'est-à-dire le fonctionnement de l'objet. Elle réside là. Ce paradoxe, une dignité technique culturelle une dignité culturelle de la technique qui réside non pas dans les usages humains, mais dans le fonctionnement, ce paradoxe, qui n'est un paradoxe que parce qu'une certaine doxa philosophique ne le comprend pas et le confond avec une contradiction insoluble, eh bien ce paradoxe se résout, comme tout paradoxe. Il se résout dans l'idée que le devenir technique conduit à des ensembles des techniques dont le fonctionnement même, à l'âge de l'information, peut seul offrir les conditions d'une véritable transindividualité humaine. Et ceci revient précisément à dire que le progrès technique, le progrès proprement technique, c'est-à-dire le progrès des fonctionnements, doté de sa propre normativité technique intrinsèque, ce progrès révèle à terme sa normativité pour le progrès social lui-même. Au terme du mode d'existence des objets techniques, Simondon écrit ainsi « L'outil ou l'instrument n'ont pas de pouvoir normatif, parce qu'ils sont de manière permanente à la disposition de l'individu. Les réseaux techniques, dit-il, prennent d'autant plus de pouvoir normatif que la résonance interne de l'activité humaine est plus grande à travers les réalités techniques. » Il n'y a pas de contradiction ici par rapport à l'idée qui était exprimée dans la note complémentaire et selon laquelle, je cite à nouveau, « les normes techniques sont entièrement accessibles à l'individu sans qu'il doive avoir recours à une normativité sociale. » Car Simondon, dans cette phrase de la note complémentaire, Simondon parlait de la normativité technique pour le progrès technique. Tandis que maintenant, il évoque la normativité technique pour le progrès social, qui dépend de l'articulation entre des ordres de grandeur. Si l'outil et l'instrument dont les normes techniques sont entièrement accessibles à l'individu, si l'outil et l'instrument sont cependant dits ici dénués de normativité pour le progrès social, il disait ils n'ont pas de pouvoir normatif, c'est parce qu'à la différence des réseaux techniques, l'outil et l'instrument sont à la disposition de l'individu, du fait de leur ordre de grandeur, qui est le même que celui de l'individu, et qui ne permet pas la mise en résonance de l'activité humaine dans son ensemble, c'est-à-dire l'interconnexion caractéristique des ensembles informationnels. Alors, j'en viendrai pour conclure à des réflexions qui, je crois, sont une sorte de pont entre mon travail d'analyse des textes et des aspects, je dirais, un peu plus personnels que je voudrais développer à l'avenir dans le cadre de la relativité philosophique, mais en restant dans le champ proprement sociopolitique qui est ici dessiné par Simondon. Si l'on définit le langage, qui n'est pas traité par Simondon, si l'on définit le langage comme le système de la communication, alors la révélation de la normativité technique pour le progrès social à l'âge des ensembles informationnels signifie que cet âge tendanciel nouveau de la technique est aussi l'âge de la fusion entre technique et langage. C'est-à-dire la fusion entre ce que je nomme pour ma part le système technique et le système symbolique. En effet, c'est précisément comme vecteur de communication universelle que la technique, via les nouveaux ensembles informationnels, révèle sa normativité pour le progrès social. C'est cela, sans doute, que n'aura pas vu Habermas. Habermas, pour qui la technique se rattache au travail et s'oppose à ce qu'il nomme l'interaction communicationnelle. La dualité travail-interaction étant centrale dans la pensée de Habermas. Mais on comprend par là même que Simondon ne réduit pas pour autant le progrès humain au progrès technique. La normativité technique pour le progrès social ne se révèle qu'à l'époque de cet élargissement, je cite, cet élargissement du domaine technique dont parle Simondon à la fin de la deuxième partie du mode d'existence des objets techniques. On doit avoir à l'esprit que la série des déphasages décrite ensuite par la théorie de la culture de la troisième partie de l'ouvrage, cette série des déphasages s'accompagne de ce que Simondon appelle des forces de convergence. Et la philosophie possède la capacité réflexive pour repérer ces forces de convergence afin de les renforcer. En ce sens, la fusion du système technique et du système symbolique définit une convergence majeure en laquelle peut se faire cet élargissement du domaine technique, qui n'est pas à comprendre comme une hégémonie de la technique. L'œuvre entière de Simondon me paraît sur ce point cohérente. Dans son article sur les limites du progrès humain, Simondon dessine une histoire dans laquelle le langage à l'âge classique, la religion au Moyen Âge, puis la technique à l'âge moderne, ont incarné successivement le progrès par leur capacité à se développer. Mais il dénonce dans le même temps toute réduction de l'idée de progrès humain à tel ou tel de ces trois développements. Dans du mode d'existence des objets techniques, où il n'est pas question d'histoire, mais où il est question d'une eidétique génétique, l'enjeu est de faire converger par la philosophie les phases techniques et religieuses. Le langage n'est plus en question. Faire converger les phases techniques et religieuses, qui sont le résultat du premier déphasage et donc de la perte d'unité de la culture. Dès lors, la normativité technique révélée à l'âge des ensembles informationnels n'est possible que par cet élargissement du domaine technique. En quoi consistent de tels ensembles? Outre qu'ils réalisent une fusion du système technique et du système symbolique, ils doivent annoncer, non pas réaliser, mais annoncer également une fusion de ces deux systèmes avec le sens humain de la transcendance, sens religieux. Simondon a toujours été habité par l'idée d'une spiritualité, dont j'avais dit dans mon livre de 2008 en quoi elle est la pointe réflexive de la transindividualité. Dans l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, il caractérisait la spiritualité comme la réunion de la science et de la foi. Mais on peut aussi, après avoir lu du mode d'existence des objets techniques, y voir la réconciliation future de la technique et de la religion, via l'étape actuelle de la fusion du système technique et du système symbolique, telle que l'analyse la réflexivité propre à la philosophie, auxiliaire des forces de convergence qui habitent la culture pluridimensionnelle. Merci de votre attention.